La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, quatrième et dernière semaine autour de la philosophie bergsonienne. Cette fois-ci, accrochez-vous, la substance corporelle, vivante. Pourquoi la substance est-elle si incomprise ? Tout simplement, dit Maritain, parce qu'elle a beaucoup d'ennemis à cause de l'idée d'accident. Qu'est-ce que l'idée d'accident ? Lorsque nous pensons à un être, nous pensons tout d'abord à une chose qui est, à une nature ou essence qui a l'existence en elle-même, c'est-à-dire à une substance. Mais l'observation nous montre qu'il y a beaucoup de réalités, couleurs, sons, mouvements, états de conscience, etc., qui ne répondent pas à cette idée, qui ne sont pas des choses subsistantes. Elles modifient, complètent, achèvent une autre chose dans laquelle elles ont l'être. C'est ainsi, écrit Maritain, que Pierre et Paul peuvent être musiciens ou philosophes. Qu'ils le soient ou non, ils ne seront ni plus ni moins tel être humain. La science habituelle de la philosophie ou de la musique est une réalité qui ne se suffit pas à elle-même pour exister, mais qui s'ajoute à la réalité déjà pleinement constituée dans l'ordre de la substance de tel ou tel être humain. Je commente Maritain, mais c'est souvent l'argument que les parents ont pour leurs enfants qui ont raté un examen ou qui ont échoué un concours. Tu ne te réduis pas à ce concours. C'est souvent ce qu'on dit. Quand une porte se ferme, mille s'ouvrent parce que la substance de l'être humain n'est pas tributaire de ses accidents. Blaise Pascal dit « Je suis né plusieurs et je meurs un seul ». Ce qui compte, c'est l'être humain. Et puis Louis Jouvet qui dit « la vocation de comédien, nous la connaissons au soir de notre vie ». Quand nous en avons vu toutes les limites, tous les contours, quand nous avons hésité, quand on a eu plusieurs accidents qui font qu'on n'était pas le comédien rêvé à 20 ans et qu'on a été celui-là à 80 ans. Donc, substance et accident sont liés. Et Maritain dit que c'est parce que les accidents sont mal compris que la notion de substance est incomprise. L'intelligence va élaborer un nouveau concept, taillé sur mesure, le concept d'une nature ou essence à qui il n'appartient pas d'exister en elle-même, mais en autre chose, d'une réalité de surcroît incapable de posséder l'être de son propre chef, mais par où s'épanouit et s'achève de toute façon le sujet avec lequel elle forme un tout, d'autant plus un, qu'elle lui est unie par son être même, par l'acte d'exister qu'elle reçoit en lui. Ce quelque chose qui n'est pas proprement un être, mais plutôt d'un être, c'est l'accident. Maritain écrit « Si l'on comprenait convenablement le concept d'accident, on éviterait l'erreur qui consiste à traiter les états de conscience comme des choses toutes faites, comme de pseudo-substances juxtaposées entre elles ou incrustées dans une autre, et on s'épargnerait aussi de reprocher cette même erreur à l'intellectualisme aristotélicien. L'idée de substance, une fois l'idée d'accident précisée, devient la substance d'une chose comme ce qui, dans cette chose, reçoit d'abord et avant tout l'existence. La substance ne change pas. Elle change, mais par et à travers et dans ses accidents. À partir de cette critique, de cette mise au point plutôt, Maritain va développer trois choses. La substance corporelle, puis ensuite la substance corporelle vivante, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, et enfin l'homme. Et j'espère avoir le temps de vous présenter les trois. La substance corporelle. Considérons une substance corporelle, une goutte d'eau, par exemple. Cette goutte d'eau, nous pouvons la diviser en sorte qu'au lieu d'une seule goutte, nous en aurons 10 ou 20, qui seront également de l'eau, qui auront la même nature et qui ne différeront que numériquement. Cette division peut être poussée par l'imagination jusqu'aux molécules elles-mêmes. Qu'il y ait ainsi plusieurs individus de même nature spécifique, cela suppose nécessairement que ce qui les fait être de telle nature spécifique se retrouve pareillement en chacun d'eux. Mais s'il n'y avait pour les constituer que ce principe d'être indifférencié, ils ne pourraient être plusieurs. Il y a donc en eux un autre principe premier d'être qui ne les fait pas être de telle nature, qui ne les détermine en aucune manière, mais qui est seulement déterminable et qui fait que le principe d'être déterminant peut être multiplié en une pluralité d'individus. Vous avez admiré la précision. Un principe d'être déterminant, la substance, s'oppose à un autre principe, celui qui est déterminable et qui va permettre la différence entre les individus, c'est-à-dire entre le multiple et l'un. Et c'est un sujet très important. À l'heure actuelle où on parle d'incommunicabilité des cultures, eh bien non, il y a une communicabilité des cultures en vertu de cette conception de la substance et de l'accident, du déterminé et du déterminable. Donc ici, Maritain place en fait deux principes d'être. Celui qui fait être, celui qui détermine à telle ou telle essence spécifique, celui qui détermine radicalement tout ce que le sujet a d'être et par conséquent d'activité. Ce principe, les aristotéliciens l'appellent la forme substantielle. Le deuxième principe, l'autre principe d'être, celui qui est déterminé, celui qui permet la multiplicité numérique, la composition élémentaire et les transformations substantielles des choses corporelles, les aristotéliciens l'appellent la matière première, pure puissance, dans l'ordre de la substantialité. Du coup, la matière première et la forme substantielle permettent de comprendre comment il y a deux principes d'être. Je vous présente rapidement la substance corporelle vivante avant de m'attarder sur l'homme. Si on passe aux êtres vivants, comme dit Maritain, en quoi sont-ils vivants? Nous constatons qu'ils diffèrent des corps non vivants en ce qu'ils peuvent se mouvoir eux-mêmes, en ce que leur activité, au lieu d'être tournée uniquement vers le dehors, se terminent à eux-mêmes et concourent ainsi à leur propre perfectionnement. La vie, qui n'est pas quelque chose de surajouté à l'être des vivants, mais qui est cet être lui-même, selon la formule scolastique pour les vivants, vivre cet être, la vie constitue donc un degré supérieur de l'être. Et on l'appelle d'un nom spécial, du nom d'âme, la forme substantielle des corps vivants. Dans tous les corps vivants matériels, autres que l'homme, cette âme est complètement plongée dans la matière, semblable à la forme substantielle des corps non vivants. Elle ne peut pas être, elle ne peut agir en aucune façon sans la matière qu'elle informe. Elle est donc incapable de subsister après la mort du végétal ou de l'animal. Elle n'est pas un être, elle n'est qu'un principe d'être. Vous devinez, pour l'homme, il en est complètement autrement. Arrivons enfin à l'homme, écrit Maritain dans le chapitre 10, intitulé « L'homme » de la philosophie bergsonienne. L'homme est une substance, certes. Une substance corporelle, oui. Une substance vivante, bien sûr. Mais voilà, il est une substance intellectuelle. Maritain écrit « Cette substance est une. C'est le même être. C'est le même moi qui pense et qui sent et qui vit. Donc cette substance, comme toute substance corporelle, est un composé de matière première, de forme substantielle. Comme toute substance corporelle vivante, elle est composée d'un corps et d'une âme, principe d'être et de vie. Et ici, chez l'homme, principe d'intelligence aussi. Puisque la forme substantielle est le principe radicalement déterminant de toute l'activité comme de tout l'être du sujet. Maritain s'appuie évidemment sur Aristote, vous avez reconnu, avec l'âme végétative, l'âme sensible et l'âme intellective, et sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin dans la première partie, la question 76, article 1. Mais cette âme, contrairement aux âmes des autres vivants, n'est pas seulement un principe substantiel. Elle est une substance, un être. Elle est subsistante. Renvoie à saint Thomas, question 75, article 2. Pourquoi ? Parce que l'âme est le principe de l'intelligence et bien sûr de la volonté. Or, l'opération de l'intelligence n'implique en elle-même absolument rien de corporel. Elle est dans ce qui la constitue en propre, entièrement pure et indépendant de la matière, parce que si son objet proportionné est la nature des choses qui tombent sous les sens, cependant, c'est sur les choses sensibles, quelles qu'elles soient, qu'elles portent ainsi, tandis que toute opération où la matière intervient intrinsèquement est limitée par la même à une certaine catégorie d'objets matériels, comme il arrive pour les opérations des sens, qui perçoivent seulement ce dont l'action convient à la constitution physique de l'organe. Vous le sentez, nous sommes à l'opposé de notre première émission, où, pour Bergson, c'était l'action qui l'emportait. Homo faber, homo sapiens. Dire que l'homo sapiens vient après l'homo faber dans l'évolution, dire que l'intelligence est la constitution, la subsistante, elle est subsistante par elle-même, c'est voir que l'intelligence est vraiment la faculté qui configure l'homme à l'image de Dieu. Et c'est une sortie radicale de l'action comme moteur, c'est-à-dire raison, cause première et cause finale de l'homme. Maritain poursuit dans cette phrase à la Proust qui fait au moins 20 lignes et qui est finalement une conclusion de sa philosophie bergsonienne. On est au centre du livre et c'est ici le centre de gravité. Il se renchérit. De plus, l'opération de l'intelligence ne s'arrête pas aux choses sensibles. Elle passe au-delà. Elle connaît par analogie les natures spirituelles. Elle s'étend au monde des possibles. Son champ est d'une amplitude infinie. Vous comprenez, c'est pour cela que l'intelligence est la faculté qui assimile, qui rend l'homme image de Dieu. Maritain commente « Cette opération est encore strictement immatérielle en elle-même, parce qu'elle porte, comme sur son objet spécificateur, sur l'être, sur l'essence des choses, par le moyen d'une idée abstraite et universelle, dégagée, comme nous l'avons vu à propos de l'abstraction, des conditions que la matière impose à la perception sensible. Enfin, parce que l'intelligence, par la réflexion, revient entièrement sur elle-même, en sorte qu'elle peut se contenir elle-même et son principe, à savoir le moi existant, dans son activité, ce que tout agent matériel est essentiellement incapable de faire. L'intelligence, pour le résumer, n'a pas besoin de la matière pour être. Elle est une substance spirituelle. Au surplus, la seule considération de l'homme suffit à démontrer l'existence de l'âme comme forme substantielle. En effet, l'homme est doué d'intelligence et le principe de l'intelligence est indépendant de la matière dans son être et dans son opération. Il est spirituel. Lorsque nous disons que quelqu'un pense, fait un acte d'intelligence, ce n'est pas d'une manière accidentelle, comme on dirait qu'il est grand ou petit, soldat ou musicien. C'est évidemment selon qu'il est homme, selon ce qu'il est, selon son essence, que nous lui attribuons cet acte. Est-ce donc selon tout lui-même, comme s'il n'était qu'intelligence, que cet homme pense, comme le croyaient Platon et Descartes? Assurément non, car c'est le même homme qui pense et qui sent, et il n'y a pas de sensation sans corps. Donc, le corps aussi fait partie de l'homme. Dès lors, le principe de l'intelligence n'est pas tout l'homme. Il est une partie de l'homme, mais une partie essentielle, une partie de sa substance. Et parce que l'homme n'est pas un agrégat ou un tout accidentel, mais un seul tout de nature, un être, une substance, une, et qu'une substance composée, si elle n'est pas un agrégat, si elle est une, ne peut être composée que d'un principe purement potentiel, n'ayant déjà en soi aucune nature déterminée, aucun acte, c'est bien là la matière première, et d'un autre principe, qui soit l'acte par lequel cette substance est constituée dans sa nature, et en raison duquel elle possède l'existence. C'est bien là la forme substantielle. Il faut donc dire, avec saint Thomas, que l'intelligence, ou plus précisément l'âme, principe premier de l'opération intellectuelle, est la forme du corps humain. Et Maritain renvoie à la Somme théologique, première partie, question 76, article 1. Voilà comment Maritain s'oppose à Bergson. Terminé sur cette belle série de ce mois-ci, il faudrait lire plusieurs textes de Maritain. Je vais commencer par revenir sur Descartes et Bergson. Voilà pourquoi on ne peut pas dire avec Descartes que l'âme soit la pensée, ni avec M. Bergson que l'âme soit la mémoire. Elle a la mémoire, elle a la pensée. Parmi ces puissances, les unes n'ont d'action que sur le corps auquel l'âme est unie. Ce sont les puissances végétatives et motrices. Par les autres, l'âme connaît les autres corps dans leur action sur son corps et leur signification pour lui. Ce sont les puissances sensitives, sens externe et sens interne. Et elle se porte vers ce qu'elle connaît ainsi, c'est l'appétit sensitif. Tout toutes ces puissances sont des facultés, non pas de l'âme seule, mais du composé âme et corps. Ce n'est pas l'âme seule qui voit, c'est l'organe animé qui voit. Ainsi, Maritain conclut, admirable démarche du réalisme authentique. C'est en se fondant sur l'unité de l'homme, substance corporelle intelligente, qu'il distingue en lui deux principes, incomplets chacun, et dont l'union fait l'être humain. Impossible de distinguer plus profondément l'âme et le corps, puisque cette âme a une vie et une activité propre, indépendante du corps lui-même qu'elle informe. Impossible de les unir plus étroitement, puisqu'ils constituent une seule essence et existent d'une seule et même existence, qui est celle de l'âme communiquée au corps. Le corps n'est pas, ne peut pas être sans l'âme. Il n'est pas une machine, une fois faite, qui reçoit ensuite la vie et que l'âme dirige du milieu du cerveau, tel le fontainier de Descartes. Citation qui doit être dans les regards où se vont rendre tous les tuyaux de ces machines. Il s'agit du De Homine, chapitre 2, paragraphe 16. Être, pour lui, c'est vivre. Du seul fait qu'il est, il est vivant et organisé, parce que ce qui le fait être, c'est l'union de la matière première, pure potentialité ontologique, union à l'âme qui l'informe et qui, étant dans le corps à titre de forme substantielle, est tout entière dans tout le corps et dans chacune de ses parties. Quant à l'âme, elle est spirituelle et subsistante, elle est une substance, elle peut être sans le corps, mais sans le corps, elle est une substance incomplète. Parce qu'elle a, dans sa nature, non seulement de pouvoir exercer les opérations spirituelles de l'intelligence et de la volonté, mais encore d'informer substantiellement un corps, en sorte que suivant son mode naturel d'opérer, l'exercice même de ses opérations spirituelles dépend extrinsèquement du corps et des facultés sensitives. Ainsi, l'âme seule n'est pas l'homme, la personne humaine. Bien qu'elle tienne de l'âme et sa subsistance et les propriétés caractéristiques de la personnalité, l'intelligence et la maîtrise de ses actes, la personne humaine, c'est la substance complète composée de l'âme spirituelle et du corps. Au point que l'âme séparée, privée au reste de l'exercice des facultés sensitives qui ne sont pas sans le corps, ne peut pas, étant une substance incomplète, être appelée une personne. La notion métaphysique elle-même de personne exigeant l'intégrité de la nature. C'est ainsi que la philosophie pose la pierre d'attente du dogme révélé de la résurrection du corps. Nous voilà loin du trop naïf, hélas, mépris du corps et des facultés sensitives professées par les spiritualistes de l'école de Descartes ou de Platon. Mais en même temps, tout ce que l'homme a d'être, de vie, d'actualité, il le tient de son âme. Et cette âme est une substance immatérielle. Doctrine vraiment amie de la vérité et de la paix, vraiment humaine, qui honore tout ce que Dieu a fait. À bientôt.